Il est l'heure des Faboudirène, votre plateau de solidarité et d'entraide. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce numéro, nous allons parler de la solidarité développée entre les occupants d'un même site des personnes déplacées, une solidarité qui représente un espoir. Comme quoi, malgré les difficultés, le sens du partage reste intact chez les personnes déplacées. À la une de cette édition, nous faisons une immersion dans le quotidien de ces hommes et femmes qui partagent le peu qu'ils ont. Pour faire une lumière autour de cette forme de solidarité, son impact et le rôle de cette assistance mutuelle dans la société, nous sommes aujourd'hui avec Yacouba Dogoni, docteur en sociologie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce passage attribué à un écrivain français des années 1500 est notre proverbe de la semaine. Nous en parlons avec un traditionaliste dans un contexte marqué par des évolutions scientifiques et des crises à travers le monde. Ce riche programme vous sera développé par Dramane Meiga avec la complicité technique de Seydou Daou. Encore une fois, bonsoir. Comme nous venons de le dire, nous avons fait le tour de certains sites à travers le pays. Et l'une des choses qui saute à l'œil, malgré la crise financière et humanitaire qui traverse les personnes déplacées internes, c'est la solidarité. Sur les sites des déplacés, beaucoup de femmes ont développé des liens étroits. Cela a contribué, selon les responsables des sites, à l'installation d'un climat de paix, d'entente et d'entraide entre ces femmes. Une situation qui favorise, selon eux, le vivre ensemble et la cohésion sociale, gage d'une société paisible où règnent les vraies valeurs de la vie et de la stabilité. Fatia Tara a été témoin de ces moments de partage et de convivialité entre ces femmes.
La vie des femmes sur les sites de déplacés est organisée comme dans toute société normale. Sur un site de déplacés assez varié, nous retrouvons un exemple parfait de vie en communauté. Ici, les femmes mènent une vie simple mais très riche grâce à l'entraide et l'entente qui règne, affirme Oumar Bari, un responsable du site de déplacés de Mopti.
Quand nous voulons organiser un événement social, il y a toujours des démarcheurs qui s'occupent de la tâche d'organiser, informer et inviter les parents et les proches, comme dans nos communautés d'antan.
L'entraide entre les femmes est perceptible à travers les événements sociaux, souligne notre interlocuteur. Lorsque l'une des femmes organise un mariage, baptême ou est éprouvée par un décès, nous apportons tous notre soutien à elle. Poursuit Oumar de Sévary.
On se soutient mutuellement. Quand il y a mariage, baptême ou décès, chacun apporte un cadeau. Souvent, c'est du matériel ou même des céréales, notamment le riz, les mil, entre autres.
L'entente et la complicité entre les femmes déplacées sont des facteurs renforçant l'union et l'élaboration des initiatives. Parmi celles-ci, on peut citer les tontines, entre autres. Nafa, c'est le nom de la tontine des femmes déplacées à Gargando dans la région de Tombouctou. Ina Cissé, âgée de la trentaine d'années, est membre de cette association.
On a organisé une tontine. On est au nombre de 20 personnes. Chacune cotise 100 francs. On rassemble à peu près une somme de 20 000 francs et un membre ramasse. C'est un peu consistant car avec ça, je peux avoir un fonds de commerce. Je vends du riz, mil et condiments ainsi que les boubous des enfants, des accessoires pour les tresses des petites filles et beaucoup d'autres choses. La tontine nous permet de nous entraider et de rester soudés. On se comprend, on s'aide mutuellement.
Abiba Guindo, une déplacée à Bankass, souligne aussi que la tontine lui a permis de subvenir à beaucoup de besoins de ses enfants, notamment la scolarisation de ceux-ci.
Je suis aussi dans une tontine. J'ai payé des cahiers, stylos, règles et autres matériels didactiques pour mes enfants. Cela aide beaucoup nos maris car ils sont désœuvrés et ont des problèmes économiques liés à la crise et au déplacement.
Pour des sociologues, la cohésion sociale entre les femmes est essentielle pour la culture de la paix. Elle joue aussi un rôle prépondérant dans la stabilité de la santé mentale des femmes déplacées qui ont subi beaucoup de traumatismes à cause de la crise sécuritaire, explique le sociologue Hama Guindo.
Donc l'attente joue un rôle central dans la vie des femmes réfugiées vivant dans les camps et son importance se manifeste à plusieurs niveaux.
Les femmes jouent un rôle prépondérant et crucial sur le maintien de la paix et de la stabilité sociale. L'importance se situe à plusieurs niveaux. Soutien émotionnel et psychologique réciproque ou mutuel, le renforcement des capacités, la protection et la sécurité, plaidoyer et la représentation, le renforcement de la résilience communautaire, la transmission des valeurs éducatives ou sociétales. Donc, la cohésion sociale entre les femmes est essentielle pour le bien-être individuel et collectif. L'ensemble de ces éléments que nous venons d'énumérer permettent aux femmes de mieux faire face aux défis liés à leur situation sociale.
Cet avis est partagé par les services du développement social. Mariam Nyangali est gestionnaire du site de déplacés des Faladiers. Selon elle, parmi les formations organisées figurent des modules enseignés sur l'importance du vivre ensemble et la cohésion sociale.
Donc c'est dans ce cadre-là qu'on organise des journées de sensibilisation. On essaie de mettre en place des groupements de femmes qui travaillent ensemble. Il y a même des coopératives avec des partenaires aussi. Chaque mois, les femmes, quelques femmes se réunissent, elles cotisent entre elles. Elles ont eu à créer des comptes aussi, des comptes bancaires pour vraiment garder leur argent, pour s'entraider en cas de manifestation, en cas de problème. C'est suite à des sensibilisations et à des formations aussi.
Sur les sites de déplacés, chrétiens, musulmans ainsi que différentes ethnies cohabitent et se côtoient sans jamais s'indexer ni s'écorcher. S'accordent les responsables de plusieurs sites de déplacés à Gao, Tombouctou, en passant par Mopti.
Nous remercions Fatih Yattara sans oublier nos correspondants qui ont contribué à la réalisation de ce reportage. Comme pour rappeler cet adage bambara qui stipule qu'on peut tout partager sauf une graine de Fonio. Aujourd'hui, pour comprendre cette solidarité, nous avons échangé avec le sociologue Dr Yacouba Dogoni. Dans la première partie de notre discussion, nous allons aborder des questions telles que comment les personnes qui ne viennent pas des mêmes villages et qui n'ont souvent pas les mêmes cultures peuvent développer une solidarité entre elles. Comment les relations de solidarité évoluent-elles au fil du temps, vu que ces personnes ont passé plusieurs années ensemble. Suivons cette première partie. Monsieur Dogoni, bonsoir. Comment allez-vous?
Bon, moi je vais très bien.
Que pensez-vous déjà de ce reportage?
Bon, moi je pense que de façon globale déjà, aujourd'hui la réalité de populations déplacées est une réalité alors qui n'est figée à personne. Tout le monde sait dans quelles conditions aujourd'hui les déplacés vivent. Bon, même si ceux-là qui sont dans des situations normales, comme les non-déplacés aussi vivent vraiment des situations un peu difficiles, donc à fortiori ceux-là qui sont dans des situations de déplacement. Donc le reportage qui parle de maigres moyens, et surtout des femmes, je pense que c'est une situation qui touche globalement les femmes déplacées et les femmes non-déplacées, et surtout en milieu rural. Mais typiquement, concernant les femmes déplacées, vous savez que aujourd'hui, il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont désœuvrées, des femmes qui venaient dans des endroits où elles pouvaient exercer beaucoup de métiers, ce que nous appelons en gros les activités génératrices de revenus, les AGR. Donc, elles pouvaient faire du maraîchage, elles pouvaient faire des petits commerces, mais avec les déplacements, elles sont obligées de tout abandonner. Donc, cet abandon crée toujours vraiment une précarité économique chez elles, mais aussi elles ne favorisent pas du tout une insertion professionnelle en milieu d'accueil. Parce que là, il y a des barrières linguistiques, des barrières sociales, des barrières politiques qui font aujourd'hui que ces femmes ont des difficultés de pouvoir exercer correctement une activité économique qui pourrait les amener à mener une vie noble. Donc, parler vraiment des maigres moyens des femmes, ça revient à dire que les familles vivent très mal parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que les femmes sont les pliées de toutes les familles d'aujourd'hui. L'homme sort pour aller chercher les moyens de subsistance, mais il faut que ces moyens soient entretenus par une dame qui s'occupe vraiment de ça, de l'éducation des enfants après derrière le mari. Mais si tous les deux sortent aujourd'hui pour aller chercher de quoi vivre, donc cela crée forcément vraiment des vides et que ces vides ne sont pas du tout comblés si il n'y a pas d'activité sociale qui les accompagne, notamment la solidarité.
Les personnes qui ne viennent pas du même village, de la même communauté, qui ne parlent pas souvent la même langue, qui n'ont pas les mêmes cultures, peuvent développer une solidarité entre elles.
Vous savez, cette solidarité, c'est une solidarité contraignante. Elle est imposée à ses éléments, à ses membres de la communauté. Parce que beaucoup pensent que la solidarité, c'est de l'entraide seulement. La solidarité n'est pas seulement de l'entraide. Dernièrement, quand on prend la définition de la solidarité, ce n'est pas seulement de l'entraide. L'entraide, en fait, c'est un atome de la solidarité, c'est-à-dire que c'est un aspect de la solidarité. Selon la solidarité, c'est d'abord un phénomène moral qui lie les membres de la communauté entre eux et crée des rapports de coopération et de dépendance. C'est ça la solidarité, en fait. Maintenant, un phénomène moral, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une conscience collective maintenant qui est là, et qui oblige l'individu maintenant à créer des relations avec ses semblables et aussi développer ce qu'on appelle la coopération entre eux. Cela veut dire que s'il y a des problèmes, par exemple, on se les partage, s'il y a des crises, on les gère ensemble, s'il y a aussi du bonheur, on les partage ensemble. C'est comme ça qu'on voit. Mais aussi, on voit que dans cette situation, il y a certains qui n'arrivent pas vraiment à avoir tout simplement à des difficultés d'insertion sociale. Et du coup, ces gens-là deviennent maintenant des dépendants. Et là, on ne peut pas les exclure aussi, parce que dans la société, il y a ce qu'on appelle des aptes et des inaptes. Maintenant, ceux-là qui sont inaptes et qui sont touchés par un handicap de ces gens, voilà, donc ceux-ci sont obligés d'être à la charge de la communauté. Donc, cela crée la dépendance forcément. Donc, c'est ça aussi la solidarité. Maintenant, surprendre, dire que, vous voyez, ce sont des gens, en fait, qui ne viennent pas de la même localité ou bien qui ne sont pas de même ethnie, etc., etc. Donc, la géographie joue très peu dans ça, et même le sociologique. Maintenant, ce qui crée, c'est vraiment, c'est de voir maintenant comment est-ce que dans des gens qui vivent dans les mêmes situations peuvent parvenir maintenant à surmonter ensemble les problèmes et essayer vraiment de créer une situation conviviale pour l'ensemble. C'est ça aussi les soucis.
Quels sont les défis spécifiques liés à la solidarité dans des contextes multiculturels, multiethniques parmi les déplacés? Vous avez un peu touché la partie.
Oui, en fait, les défis, c'est un peu un défi lié aussi à la cohabitation des ethnies. Vous savez, ceux-là qui sont dans les camps des déplacés, une multiplicité d'ethnies maintenant qui se retrouvent, cela crée une diversité culturelle. Et cette diversité culturelle peut être mal perçue par certaines personnes. L'autre défi par rapport à cette solidarité multiculturelle, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, les aides tardent à venir et que la situation interne ne favorise pas vraiment une forme d'exportation maintenant du pouvoir de l'individu vers l'extérieur et permettre à cet individu de pouvoir canaliser un réseau et pouvoir y pénétrer pour vraiment extraire maintenant ses avantages. Ça pose énormément de problèmes à beaucoup de gens. C'est aussi un des défis. L'autre là, c'est vraiment les défis politiques, parce qu'aujourd'hui et jusqu'à présent, ça fait plusieurs années que ces gens-là sont installés dans des camps de déplacés, parce que la solidarité a une limite. Au moment où vous savez que nous sommes en train de muter vers une nouvelle forme de société, donc cela crée un effritement du lien social. Et là, la solidarité va commencer aussi à s'aligner. C'est la raison pour laquelle il faut prévenir l'aliénation de la solidarité et même proposer vraiment des solutions holistiques pour permettre à ces individus de pouvoir vivre de façon ordinaire et ne pas vraiment être toujours dépendant vraiment des aides extérieures qui viennent, que ce soit des aides de l'État ou bien des aides des partenaires ou d'autres aides, formes d'aide qui arrivent. Donc ça veut dire qu'il faut réorganiser, restructurer la politique afin de permettre non seulement créer un véritable camp pour aider ces gens-là à sortir des taudis, mettre en place vraiment une politique économique d'insertion pour se déplacer. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut consolider ou envisager si ce n'est pas encore fait.
C'était la première partie de notre échange avec Dr Dogoni. Restez à l'écoute car tout à l'heure, vous aurez le sketch et juste après, nous allons aborder le rôle des femmes et des jeunes dans les mécanismes de solidarité, des impacts sociaux de cette assistance, entre autres. Depuis des années, Zabiatou et Hamadi vivent dans le même camp de déplacés. Venus de villages différents, leur déplacement a fait d'eux des membres d'une même famille. Pour en savoir plus, suivons ce sketch.
Salut ici. Salut.
Salut Zabiatou. Comment ça va?
Oui, je vais bien. Et toi, Hamadi?
Je ne me plains pas. Je rends grâce à Dieu.
Mais où est ta femme?
Tu ne l'as pas croisée. Elle est allée chercher de l'eau à la pompe.
Non, non. Pourtant, j'ai urgentement besoin d'elle.
Ah bon? J'espère qu'il n'y a rien de grave.
Non, mais c'est elle qui pourra gérer la situation.
Explique-moi, on ne sait jamais.
Au fait, j'ai besoin d'un peu d'oignons. Je n'en ai plus. Pourtant, il fait presque nuit et je dois préparer le dîner. En plus, il me faut un peu de sucre pour la bouillie du matin.
Je crois savoir où elle garde ses condiments. Mais en ce qui concerne le sucre, je suis désolé. On n'en a plus. Attends-moi, j'arrive. Voilà ça.
Merci beaucoup. Hamadide, chaque jour je me demande comment allons-nous tenir dans ces conditions. La vie ici est rude. Et parfois, j'ai l'impression qu'on est laissé à nous-mêmes.
Je comprends, Zabiatou. Mais regarde autour de toi. Nous sommes tous ici, ensemble. Et c'est justement notre solidarité qui nous permettra de tenir.
Oui, mais que pouvons-nous faire concrètement? Beaucoup ont perdu leur famille, leur maison, leurs moyens de subsistance.
Ce que nous avons perdu est immense, mais ce que nous pouvons construire est encore plus grand. L'assistance ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, c'est nous qui devons nous soutenir mutuellement. Et regarde, même les plus jeunes comprennent l'importance de partager des moments de joie ensemble. Et c'est cela qui nous donne de l'espoir. Si nous continuons à nous soutenir, nous pourrons traverser cette épreuve ensemble.
Merci Hamadi. À partir d'aujourd'hui, je ferai de mon mieux pour être un maillon fort de cette chaîne solidaire. Merci pour cet tas d'oignons.
Inutile de me remercier, c'est normal. Tu auras fait la même chose pour moi. Rentre bien.
Merci beaucoup.
C'était le sketch avec Zabiatou et Hamadi. Alors, Monsieur Dogoni, que vous inspire ce sketch?
Je pense avoir anticipé un peu sur ce sketch-là. Cette richesse de condiments ne finit pas parce que le plus gros problème au Mali, c'est vraiment, comme on le dit au Burkina, le prix des popotes. Ça, c'est ce qui pose énormément de problèmes. Il y avait une famille dans une commune, dans un chef-lieu de commune vers la région de Sikasso. Le monsieur et sa femme, le monsieur était un enseignant et la femme était une matrone. Un jour, le monsieur a appelé dire que bon, il a appelé sa femme dire que bon, moi je n'ai plus les moyens parce que je suis à la retraite. Je n'ai plus les moyens vraiment pour subvenir aux besoins de toute la famille. Il va falloir qu'on crée vraiment un fonds d'aide familiale. Et ce fonds d'aide familiale va consister pour toi qui travailles et pour moi qui suis actuellement en retraite, alors de se partager maintenant les moyens. Voilà, là le monsieur a dit à la femme de choisir. Et la femme a dit non, c'est toi le plus âgé et donc il faut choisir. Et le monsieur a dit bon, je vais prendre le prix de condiments. Voilà. Et la dame a dit d'accord, bon, moi je vais m'occuper des autres, du riz, du maïs et tout ça. Vous savez, au bout d'un mois, le monsieur il avait investi le triple des dépenses faites par madame. Et finalement, oui, parce que là, prenez par exemple une famille qui donne 1000 francs par jour et multiplié par 30 le mois, ça fait 30 000. Imaginez en son temps un sac de 100 kilos ne se vendait qu'à 7500 comme ça en son temps, parce que c'était dans les années 99-2000, hein. Voilà, et en milieu rural aussi. Donc là, la dame a fait un stock avec son salaire d'un mois ou de deux mois. Elle a fait un stock pour un semestre. Et le monsieur, oui, le monsieur était encore en train de dire. Donc ça veut dire que vraiment ce sketch-là vraiment parle un peu de cette réalité. La recherche de condiments, ça pose énormément de problèmes aux gens. Maintenant, si on arrive à trouver une solution à ça, donc moi je pense que celui qui a la main facile à pouvoir mobiliser vraiment des fonds pour ça, donc c'est tellement aussi qu'il doit songer, comme on l'a dit, hein, à créer un lien de solidarité avec ceux-là qui ont toujours des difficultés à pouvoir mobiliser.
Merci à ces personnes qui ont le sens du partage et merci à vous auditeurs et auditrices. Nous vous rappelons que vous suivez Studio Tamani à travers nos radios partenaires et sur nos différentes plateformes digitales. Aussi, vous pouvez réagir à toutes nos productions via notre page Facebook et notre compte X. Mesdames et messieurs, à présent, nous abordons la deuxième partie de votre émission. Comme annoncé plus tôt dans cette deuxième partie, nous allons parler du rôle des femmes et des jeunes dans la mise en place de ces mécanismes de solidarité. Et cette solidarité, quel peut être son impact social et psychologique? Suivons cette deuxième partie.
Le rôle que jouent les femmes et les jeunes dans la mise en place de ces mécanismes de solidarité.
Les femmes, quoi qu'on dise, c'est vraiment le noyau central de toutes les familles. Bien que nous disions voilà, nous sommes le mâle dominant, Ça, c'est dans la journée, nous n'avons jamais dominé en fait la nuit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes les mâles dominants, hein, voilà, qui est visible, mais qu'en réalité, quand je parle de la nuit, en dehors du lit conjugal, il y a beaucoup de formes de domination la nuit. C'est comme par exemple si l'homme a des difficultés à qui se confier, si l'homme, les conseils sont importants pour la vie de l'homme, de l'individu. En dehors de ça aussi, si l'homme sait qu'il n'a pas les moyens, il ne va pas dire ça à sa femme dans la cour, il va l'appeler vraiment dans un coin obscur pour dire « Ah, bon, moi, je n'arrive pas à mobiliser suffisamment de fonds. » Donc, ça veut dire que ce sont les femmes qui doivent entretenir cette solidarité et elles jouent vraiment un rôle fondamental dans ça. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour les politiques à venir de définir le rôle et le statut vraiment de chaque individu dans la lutte contre les problèmes au niveau des camps de déplacés.
Quels sont les impacts sociaux et psychologiques de cette solidarité entre les individus vivant dans des conditions de précarité?
Impact psychologique, moi je pense que je ne peux pas mesurer cet impact-là, étant donné que je ne suis pas psychologue. Mais ce que je peux observer, c'est déjà que lorsque vous connaissez qu'il y a une personne qui est en difficulté et que vous venez en aide, c'est déjà un facteur de gestion de la crise mentale. Parce que déjà, quelqu'un qui a des difficultés vraiment mentalement, vous allez voir que la personne a des difficultés de collaboration. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais il faut que nous soyons vraiment dans l'empathie des gens qui sont dans des difficultés et voir maintenant quels sont les mécanismes acceptables qu'on peut mettre en application, qu'on peut mobiliser pour permettre aux gens de renforcer non seulement une mentalité forte, les inculquer une mentalité forte, mais aussi le montrer, en tout cas, comme on le dit en Bamanakan, c'est un bandou, quoi. Voilà, que ces gens-là espèrent qu'un jour, vraiment, ils vont sortir de cette difficulté. L'impact social, c'est aussi ça, vraiment, parce qu'aujourd'hui, dans ces camps, on voit qu'il y a beaucoup de parents qui sont déplacés avec les enfants. Quand, au moment du déplacement, ces enfants étaient des mineurs. Mais aujourd'hui, ce sont des adolescents, ce sont des personnes adultes aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un défi vraiment pour les éduquer, pour les encadrer, pour les éviter des déviances sociales, tout ça.
Quelle peut être l'importance de résoudre certains problèmes sur les sites sans attendre les appuis extérieurs, c'est-à-dire entre voisins immédiats?
C'est le vécu quotidien de ces déplacés-là, c'est ce qu'ils font quotidiennement. On le dit en Bamanakan, ni sabraga belemitri bouleboure kakagoshi. Donc là, les gens là n'ont pas d'autre alternative que de s'appuyer mutuellement, se donner les mains et de renforcer leurs relations afin de permettre, afin d'éviter ce qu'on appelle un effondrement général.
Merci à Dr Yacouba Dogoni, chercheur et sociologue. Il nous reste deux rubriques à parcourir avant la fin de cette émission. À présent, un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Et c'est à travers notre rubrique Artiste de la semaine. Et notre artiste invité est un jeune rappeur. Il se nomme Zulu Eidi. Nouveau dans ce monde de la musique, il vise un succès planétaire. Sans plus tarder, suivons notre échange avec lui. Zulu Eidi, ça c'est certainement un nom de rappeur, un nom d'artiste. Qui est Zulu Eidi à l'état civil?
À l'état civil, c'est Mohamed Lamine Tchakité.
Alors, la musique, le rap, le monde du rap, ça se passe comment?
Bah, on se débrouille, hein.
Avec géré, hein?
Ouais, avec géré.
C'est sûr?
Bon, pour moi. Et alors, ça va aller.
Ça va aller.
Ouais.
Alors, actuellement, Zulu Eidi travaille sur quel projet?
Bah, pour le moment, mais un concert là-bas, là.
Vous préparez tu votre concert?
Voilà. Donc, on avait prévu qu'à quel foyer là, quoi, vous voyez ou pas?
Foyer des jeunes.
Voilà, foyer des jeunes, là, c'était un concert gratuit. On est obligé qu'à quel très mal là. Comme c'était un concert gratuit, donc du coup, on a
fait
podium
et très mal là. Un genre podium sur,
voilà,
au,
sur le
stade.
Voilà.
Et le stade, c'est le stade de quel quartier?
Sabalbougou-Kouran.
Ah, ok, d'accord.
Sabalbougou-Kouran.
Donc, vous avez fait combien de morceaux depuis que vous avez commencé le rap?
Peut-être 6 ou 7.
Alors,
je sais pas.
Vous avez commencé le rap quand?
2021.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser ce monde?
Kacha. C'est un artiste malien. Donc, Ntouma lere la métro. Même les non-zoulous, Abora lere la Wawaupa. Voilà.
Et c'est ce qui vous a inspiré à voilà. devenir un rappeur. Alors on va écouter un de tes morceaux.
Okay.
Et ce morceau ça s'appelle
Fuck Life.
Fuck Life.
Alice ningene menga misiki nigun eche jago ya tiri ya fu obana zulu te soro latun munu megere gidun ni mageche jolin dore befu nala bimo weta ibe munga herefe ubi juya la emunela bimo weta Ni ese gado uye ugi buo gafa epi anye kocha mange umoye mogo chama e kocha mange mumoye me fashioning ngake lolo e bichi nge ngata shini juru.
C'était la Fax Live de Zulu AD. Zulu AD, Fax Live. En général, qu'est-ce que tu dis dans ce morceau?
Fax Life, bon, ça signifie genre mauvaise vie quoi, vous voyez ou pas?
Et ouais. vous donner des conseils. Alors Zulu Eddy, à ouais. part le concert, est-ce que vous prévoyez de faire des clips, de faire des tournées à travers le pays? Est-ce que vous avez des ambitions d'aller même au-delà de ce pays?
Bien sûr. Pour le moment, mon rêve, c'est d'avoir les succès d'abord pour aller à l'extérieur, pour aller faire la pub de mon pays.
D'accord, vendre ton pays à travers le
voilà,
monde et nous sommes dans un pays où nous traversons des moments vraiment difficiles.
Difficile, ouais.
Nous parlons des personnes déplacées dans cette émission.
Ouais.
Et si vous avez un message à passer à ces personnes, ce message, ce serait quoi?
Les personnes qui sont dans les difficultés, moi je souhaite que ces personnes tiennent le coup.
Inch'Allah, c'est le message du jeune artiste Zulu Eddy. Et on va clôturer cette partie par un autre de ses morceaux.
Ashwagem magas de pia fitini a mega balonina. Unu milanya galure be bugo fega fie kita intada. Ore lante mogola me monu me bigo paga. Unu ba fia na gulu ba kie kanula ma beta pa. Chuina me la benu balanciaga wala e kutigi nana. Wale me gulla bifo ite do mina fo jigi jigi jara. Tuma kutigi mana aona na ke nege ashwake tapate mongso mugu pampande.
Eh munega muma ke nege ni la je mina mi bolo itate ne manto slate ma bijan fe hein o te ban ame hiti la me ame hiti de bo hiti la me hiti de bo ite hiti de bo hein hein chaulika boka hein hein kele ke fatila hein hein ashwa ke medula Zulu be feel la hine ten to sula nyuka daddy negeze awe ani ba fe awe hen awe ani ba fe atenye figa fe 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 la te mede ya testo pe ano do be mindo be likide
si ta ne pa Zulu Eddy dans nos locaux. Merci à ce jeune artiste. Nous vous disons à la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices. Bon vent à ces jeunes qui rêvent de prospérer dans cet art et de vendre les belles images du Mali à travers le monde. À présent, la dernière rubrique de cette émission, le proverbe de la semaine. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette citation, qui est sans doute d'actualité, est notre proverbe de la semaine. Une phrase expliquée par Moussa Balabalo, traditionnaliste à Ségou.
Moussa Balabalo, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a un proverbe qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire tout simplement que alors, une science, toute science doit être accompagnée d'une conscience. Une conscience, c'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit d'une pensée. Donc, quand il y a la science sans la conscience, eh bien, alors, cette science est vouée à l'échec et l'échec est répercuté sur l'âme, sur la vie, sur l'humanité elle-même. Donc, voici pourquoi on dit que la science doit partir tout simplement, elle doit se faire accompagner par la conscience. La conscience est l'âme, est le compagnon fidèle de la science. La science est le compagnon fidèle de l'homme, donc de l'âme. Donc, quand il n'y a pas de conscience dans une science, eh bien, c'est l'âme qui en pâtit.
Moussa Balabalo, merci beaucoup.
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En l'appliquant à la vie malienne, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, c'est une citation qui est suffisamment citée par des gens, mais ça peut inspirer vraiment la vie malienne, hein, la vie quotidienne au Mali. Vous savez, aujourd'hui, quand tu vas dans les centres de santé, c'est les mêmes problèmes qui se manifestent. L'accueil pose énormément de problèmes. Hein. Ce sont des médecins, ce sont des scientifiques. Mais en réalité, la conscience d'accueillir un malade, parler avec un malade, communiquer avec un malade, soigner un malade, toucher un malade, ça pose énormément de problèmes. Des pays occidentaux, par exemple, qui détiennent toutes sortes de bombes qu'ils utilisent contre les humains, au lieu de les utiliser comme étant vraiment des moyens de désignation, on les utilise vraiment sur le terrain, les bombarder des individus, les crier, tout ça. Donc ça pose énormément de problèmes. La science, en réalité, si elle se retrouve dans une mauvaise main, alors là, elle sera très mal utilisée. Mais si elle est dans une bonne main, c'est sûr que la personne qui a au moins une petite conscience ne va pas abuser de la science.
Merci à notre invité du jour, sociologue Dr Yacouba Dogoni. C'est la fin de ce numéro de votre émission humanitaire Fabou d'Irène, un numéro qui vous a été présenté par Dramane Meiga. Si vous venez de nous capter, ne vous inquiétez pas, vous trouverez cette production et tant d'autres sur notre site web www.studiotamani.org. Nous vous rappelons aussi que certaines de nos productions sont disponibles sur notre groupe WhatsApp. Pour y accéder, enregistrez les numéros suivants 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Aussi, vous pouvez nous faire parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ne décrochez pas car tout de suite, la version en langue nationale Bamanankan.